Chapitre 18. Mélanie. Dans l'autocar qui me conduisait vers le nord, à travers les interminables files de taudis de Baltimore et le cloaque industriel de Wilmington, j'ai repensé à ces lignes de Saint-Augustin. Le diable a édifié ses cités dans le nord. Et j'ai toujours détesté les grandes villes du nord. L'odeur de folie impersonnelle qui s'en dégage, leur grisaille de suie et de fumée, l'impression de désespoir qui suinte de leurs rues et de leurs habitants également crasseux. À mes yeux, c'était en abandonnant le sud en faveur des canyons glacés de New York que Nina avait manifesté sa trahison. Je n'avais aucune intention d'aller jusqu'à New York. Une bourrasque de neige me dissimula soudain ce paysage déprimant et je me tournai vers l'intérieur de l'autocar. La femme qui était assise de l'autre côté de l'allée leva les yeux de son livre et m'adressa un sourire timide. Le troisième, depuis que nous avions quitté les faubourgs de Washington. Je hochai la tête et continuai de tricoter. Je pensais que cette femme effacée, une créature qui n'avait probablement pas plus de 50 ans, mais que son aspect de vieille fille décrépite vieillissait d'une vingtaine d'années, pourrait m'aider à résoudre mon problème. Un de mes problèmes. J'étais contente d'avoir quitté Washington. Durant ma jeunesse, j'avais bien aimé cette ville endormie et presque sudiste. Elle avait conservé son atmosphère de désordre nonchalant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'une ruche de marbre qui me faisait penser à un mausolée prétentieux peuplé d'insectes agités et assoiffés de pouvoir. Je contemplais les flocons au dehors et, l'espace d'un instant, me retrouvais incapable de dire quel jour et quel mois nous étions. Je me rappelais d'abord le jour, jeudi. Nous avions passé les nuits de mardi et de mercredi dans un sinistre motel situé à quelques kilomètres du centre de Washington. Mercredi, j'avais ordonné à Vincent de conduire la Buick près du Capitole, de l'abandonner et de revenir à pied au motel. Il avait dû marcher pendant 3 heures, mais Vincent ne se plaignait jamais. Il ne se plaindrait plus jamais. Mardi soir, je lui avais ordonné de s'occuper de certains détails relatifs à sa personne. Utilisant pour ce faire du fil à coudre et une aiguille que j'avais stérilisée à la flamme d'une bougie. Les vêtements que j'avais achetés dans un centre commercial le mercredi matin, quelques robes, un peignoir, des sous-vêtements, étaient bien modestes comparés aux beaux effets que j'avais perdus à Atlanta. Il me restait presque 9 000 $ dans mon ridicule fourre-tout. Bien entendu, des sommes plus importantes m'attendaient dans des coffres à Charleston, Minneapolis, New Delhi et Toulon, mais je n'avais pas l'intention de les retirer pour le moment. Si Nina avait connu l'existence de mon compte à Atlanta, elle connaissait certainement celle des autres. Nina est morte, pensais-je. Mais de nous tous, c'était elle qui avait le talent le plus développé. Elle avait utilisé un des pions de Willy pour détruire son avion alors qu'elle bavardait avec moi. Elle avait un talent incroyable, terrifiant. Ce talent était capable de m'atteindre depuis son tombeau, de croître, alors même que son corps pourrissait dans son cercueil. Mon cœur se mit à battre la chamade, et je me retournai pour examiner les visages à peine visibles des autres passagers. Nina est morte. On était jeudi, exactement une semaine avant Noël. Donc le 18 décembre. La réunion avait eu lieu le 12 décembre. Une éternité séparait ces deux dates. Ma vie n'avait subi que de rares changements au cours des 20 dernières années, exception faite des caprices auxquels j'avais cédé par nécessité. À présent, tout avait changé. « Excusez-moi, » dit la femme assise de l'autre côté de l'allée, « mais je ne peux pas m'empêcher d'admirer votre ouvrage. C'est un tricot pour un de vos petits-enfants ?» Je me tournai vers elle et lui adressai mon sourire le plus radieux. Quand j'étais très jeune, avant de découvrir qu'il existait nombre de choses interdites aux jeunes dames, j'allais souvent à la pêche avec mon père. C'étaient les premiers mouvements de la ligne, les premiers tressautements hésitants du bouchon qui m'excitaient le plus. C'était à cet instant-là, avant que l'hameçon ne se plante dans la gueule du poisson, que le pêcheur devait faire la preuve de son habileté. Ma foi, oui, en effet. L'idée d'avoir un petit enfant vagissant me donnait la nausée. Mais cela faisait longtemps que j'avais découvert les vertus thérapeutiques du tricot et le camouflage psychologique qui allait de pair avec cette activité. Un petit garçon? Une petite fille. Et je me glissais dans l'esprit de la femme. Autant enfoncer une porte ouverte. Je ne rencontrais aucune résistance. Avec un luxe de précaution, je m'insinuais le long de ces corridors mentaux, sans découvrir une seule porte close, jusqu'à ce que j'aie trouvé le centre du plaisir de son cerveau. Imaginant que je câlinais un chat persan, bien que je déteste les chats, je la caressais, sentant un flot de plaisir monter en elle avant de jaillir comme une giclée soudaine d'urine chaude. Oh ! Elle rougit, puis rougit de rechef, sans savoir pourquoi elle rougissait. Une petite fille, c'est merveilleux. Je modérais mes caresses, les modulais, les coordonnais avec chacun des timides regards qu'elle m'adressait, les intensifiais chaque fois qu'elle entendait ma voix. Certaines personnes nous font naturellement ce genre d'impression quand nous les rencontrons. Les jeunes appellent cela tomber amoureux. Les politiciens appellent cela le charisme. Quand on a affaire à un maître orateur doué d'une parcelle de talent, le résultat est bien souvent qualifié d'hystérie collective. Bien que l'on ait guère prêté attention à leurs propos, les contemporains et les associés d'Adolf Hitler ont prétendu que les gens se sentaient bien en sa présence. Au bout de quelques semaines d'un conditionnement approprié, cette femme se retrouverait dans un état de dépendance encore plus radical que celui causé par l'héroïne. Si nous adorons l'amour, c'est parce que c'est le sentiment le plus proche de cette dépendance psychique qui soit à la portée d'un être humain normal. Au bout de quelques instants de conversation banale, cette femme solitaire qui paraissait plus vieille que son âge, autant que je paraissais plus jeune que le mien, tapota le siège voisin du sien et dit en rougissant à nouveau « Il y a de la place ici. Voulez-vous vous asseoir à côté de moi, afin que nous puissions poursuivre notre conversation sans avoir à élever la voix ?» J'en serais ravi. Et je rangeais laine et aiguille dans mon fourre-tout. Le tricot avait atteint son but. Elle s'appelait Anne Bishop, et elle retournait chez elle à Philadelphie après un long et irritant séjour chez sa sœur cadette à Washington. Au bout de 10 minutes, je savais tout ce que j'avais besoin de savoir. Mes caresses mentales étaient superflues. Cette femme mourait d'envie de parler à quelqu'un. Anne appartenait à une famille respectable et respectée de Philadelphie. Sa principale source de revenus était une pension que lui avait léguée son défunt père. Elle ne s'était jamais mariée. Cette femme falote avait passé 32 ans de son existence à soigner son frère Paul, un paraplégique qu'une maladie nerveuse avait lentement transformé en quadriplégique. Paul était mort en mai dernier et Anne Bishop n'était pas encore arrivée à se faire à cette existence où elle n'avait plus besoin de s'occuper de lui. Son séjour chez sa sœur Hélène, elle ne s'était pas vue depuis 8 ans, s'était fort mal déroulé. Anne avait été irritée par la grossièreté de son beau-frère et par les mauvaises manières de ses neveux. La famille d'Hélène avait été exaspérée par ses habitudes de vieille fille. Je connaissais bien ce type de femme vaincue par la vie. Je m'étais moi-même fait passer pour une copie d'Anne Bishop durant ma longue période d'hibernation. C'était un satellite en quête d'un monde autour duquel orbiter. N'importe quel monde ferait l'affaire, à condition qu'il lui épargne la longue ellipse glacée de l'indépendance. Un frère paraplégique était un don de Dieu pour une telle femme. Elle aurait pu se consacrer de toute son âme à un mari et à des enfants, mais un frère impotent lui offrait beaucoup plus d'excuses pour éviter les tracas et les obligations inhérents à une vie normale. Toujours prévenante, toujours effacée. Ces femmes sont en fait des monstres d'égoïsme. Pendant qu'elle se répandait en éloges sur son cher disparu de frère, je percevais le fétichisme pervers que lui inspiraient bassinet et chaise roulante, l'admiration qu'elle se vouait à elle-même, qui avait sacrifié pendant plus de 30 ans sa vocation d'épouse et de mère, pour soigner avec amour un cadavre à peine mobile et constamment puant. Je connaissais bien Anne Bishop. Sa vie était un long suicide masturbatoire. En y pensant, J'eus honte d'être du même sexe qu'elle. Souvent, lorsque je rencontre des loques dans son genre, j'ai envie de les forcer à s'enfoncer les deux mains dans la bouche jusqu'à ce qu'elles s'étouffent dans leur vomissure et que c'en soit fini. « Oui, oui, je comprends », dis-je en lui tapotant le bras, tandis qu'elle se lamentait sur sa misérable existence. « Je comprends ce que vous devez ressentir. » « Oui, vous comprenez. C'est si rare de rencontrer quelqu'un qui comprenne votre peine. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses en commun. » Je hochai la tête et considérai Anne Bishop. Elle avait 52 ans et on lui en aurait facilement donné 70. Elle était bien habillée, mais elle avait une silhouette voûtée de potiche sur laquelle même une robe de soirée aurait ressemblé à un tablier mal repassé. Les cheveux étaient d'un brun fadasse. La raie qui les séparait n'avait pas changé de place depuis 45 ans et leurs boucles pendaient lamentablement. Ses yeux étaient cernés de gris, des yeux faits pour pleurer. Sa bouche était mince et sèche, pas assez volontaire pour être qualifiée de réprobatrice, mais de toute évidence, peu accoutumée au rire. Ses rides étaient toutes orientées vers le bas. Le verdict de la pesanteur était gravé sur sa peau. Son esprit avait la vacuité nerveuse et affamée d'un écureuil effarouché. Elle était parfaite. Je lui racontai mon histoire, me présentant sous le nom de Béatrice Trône, puisque c'était celui qui figurait sur mes papiers d'identité. Mon mari était un banquier prospère de Savannah. À sa mort, il y avait 8 ans de cela, il avait confié la gestion de sa fortune au fils de ma sœur, Todd, qui avait apparemment réussi à dilapider tout mon capital, en plus du sien, avant de périr cet automne avec son épouse, une femme vulgaire, dans un accident de la route, me laissant en guise d'héritage les frais de leur enterrement, leurs dettes et leur fils Vincent. Mon propre fils et sa femme, qui attendaient un heureux événement, étaient missionnaires à Okinawa. À présent, j'avais vendu ma maison de Savannah, j'avais fini de payer les dettes de Todd, et je partais dans le Nord pour y refaire ma vie avec mon petit-neveu. Cette histoire était grotesque, mais j'aidais Anne Bishop à la croire grâce à de subtiles caresses mentales conçues pour ponctuer chaque révélation par une bouffée de plaisir. « Votre neveu est très joli garçon, » observa-t-elle. Je souris et me tournai vers le siège où était assis Vincent. Il portait une chemise blanche bon marché, une cravate noire, un anorak bleu, un pantalon de toile et des souliers noirs, un ensemble que nous avions acheté dans un Kmart de Washington. Je lui avais coupé les cheveux, mais je les avais laissés mi-longs, par pur caprice. À présent, ils étaient tout propres et réunis en queue de cheval. Il contemplait le paysage enneigé d'un air totalement inexpressif. Il était impossible de modifier son visage de fouine et de faire disparaître son acné. « Merci, » fis-je. « Il ressemble beaucoup à sa mère. Que Dieu ait son âme. » « Il est très calme, » remarqua Anne. J'acquiesçai et me permis quelques larmes. L'accident. Je marquai une pause avant de poursuivre. Le pauvre enfant a eu la langue en partie sectionnée durant l'accident de voiture. On m'a dit qu'il ne pourrait sans doute plus jamais parler. « Ma pauvre chérie, » caqueta Anne, « il ne nous appartient pas de comprendre la volonté de Dieu, mais nous devons en supporter les conséquences. » Nous nous consolâmes mutuellement pendant que l'autocar glissait le long d'une voie express surélevée qui dominait les taudis sans fin de Philadelphie. Anne Bishop fut enchantée lorsque nous acceptâmes de passer quelques jours chez elle, comme elle nous y invitait. Les rues de Philadelphie étaient bruyantes, crasseuses et noires de monde. Vincent prit nos bagages et nous nous dirigeâmes vers une gare locale où Anne acheta des billets pour Chelten Avenue par le train de Chestnut Hill. Elle m'avait décrit sa belle maison de Germantown pendant le voyage en autocar. Elle m'avait certes précisé que la ville s'était détériorée ces derniers temps suite à l'afflux d'éléments indésirables. Mais j'avais imaginé Germantown comme une entité distincte de la métropole de briques et d'acier qu'était Philadelphie. Je me trompais. Derrière la vitre du train, la lumière de l'après-midi finissant me montrait des rangées de maisons identiques, des usines désaffectées, des vérandas affaissées, des rues étroites peuplées de carcasses d'automobiles, des terrains vagues et des nègres. Hormis quelques passagers du train et quelques automobilistes roulant sur la voie express parallèle au chemin de fer, cette ville semblait uniquement peuplée de nègres. Épuisée, démoralisée, je voyais derrière la vitre sale des petits nègres en train de jouer dans un terrain vague, des petits visages noirs émergeant de parkas crasseuses, des nègres errant dans les rues glacées d'une démarche à la fois lasse et vaguement menaçante, de grosses négresses poussant des chariots volés, des aperçus de faces noires derrière des fenêtres sombres. Je collais ma tête au verre froid et résistais à mon envie de pleurer. Mon père avait raison lorsqu'il prédisait, lors de ces derniers jours dorés qui avaient précédé la Grande Guerre, que le pays irait à volo dès que les hommes de couleur auraient le droit de vote. Ils avaient transformé une nation jadis puissante en un champ de ruines à l'image de leur propre désespoir paresseux. Nina ne me retrouverait jamais ici. Ces derniers jours, seul le hasard avait présidé à mon itinéraire. En passant une ou plusieurs semaines chez Anne, même si je devais pour cela descendre dans cette fosse grouillante de chômeurs de couleur, j'ajouterais un nouvel élément de hasard à un comportement déjà erratique. Nous descendîmes du train dans une gare nommée Chelten Avenue. La voie ferrée courait entre deux murailles de béton, la ville nous dominait de sa masse. Soudain terrifié, trop épuisé pour gravir l'escalier qui montait jusqu'à la rue, je nous fis asseoir durant plusieurs minutes sur un banc inconfortable couleur de bile. Un train passa dans un grondement, fonçant vers le centre-ville. Une bande d'adolescents de couleur montèrent les marches 4 à 4, hurlant des obscénités, bousculant quiconque ne leur cédait pas le passage. J'entendais des bruits de circulation au loin. Le vent était terriblement froid. De gros flocons surgirent de nulle part et maculèrent le ciment autour de nous. Vincent ne broncha pas, ne ferma pas son anorak. « Nous allons prendre un taxi, » dit Anne. Je hochai la tête, mais me levai seulement lorsque j'aperçus deux rats, aussi gros que des chats, sortir d'une fissure du béton de l'autre côté de la voie et se mettre à fouiner dans les détritus éparpillés près des rails. Le chauffeur de taxi était un homme de couleur renfrogné. Il exigea une somme démesurée pour nous faire parcourir 8 pâtés de maison. Germantown était un amalgame de pierres de briques et de néons. Chelten Avenue et Germantown Avenue grouillaient de voitures, de magasins miteux, de bars crapuleux et de débris humains caractéristiques des villes du Nord. Mais on voyait d'authentiques tramways le long des Germantown Avenue et au milieu des banques, des bars et des boutiques, à 100 sous, se trouvaient de vieilles et belles demeures avec de temps en temps un beau bâtiment en briques du siècle dernier, et même un parc aux grilles en fer forgé et aux statues vertes grisées. Il y a 200 ans, cette ville avait sans doute été un hameau de riches maisons peuplées de fermiers et de négociants, ayant choisi de vivre à quelque distance de Philadelphie. Il y a 100 ans, c'était sans doute un village situé à quelques minutes de Philadelphie par le train, un endroit encore plein de charme, avec de belles maisons, des allées ombragées, quelques auberges le long de la route. Aujourd'hui, Philadelphie avait englouti Germantown, tout comme une immense carpe aurait avalé un minuscule poisson bien plus beau qu'elle, laissant les arêtes blanchies de son passé se mêler à l'ordure sous l'action des terribles sucs digestifs du progrès. Anne était si fière de sa petite maison qu'elle ne cessa de rougir en nous la faisant visiter. C'était un anachronisme, une jolie maisonnette blanche, peut-être une ancienne ferme, située à une douzaine de mètres de Germantown Avenue, dans une rue étroite baptisée Queen Lane. Elle était entourée d'une haute clôture de bois, couverte de graffitis en dépit du soin évident avec lequel l'entretenait sa propriétaire, donnait sur un jardin grand comme un timbre-poste, ou en tout cas plus petit que mon jardin de Charleston, était nanti d'une minuscule véranda, de 2 lucarnes, signalant l'existence d'un premier étage, et orné d'un pêcher éthique qui ne refleurirait sans doute jamais. La maison proprement dite était coincée entre une teinturerie dont la vitrine laissait croire qu'elle faisait commerce de mouches crevées et un immeuble collectif de 2 étages, qui aurait pu sembler abandonné depuis 20 ans si on avait aperçu des visages noirs épiant la rue à ses fenêtres. De l'autre côté de la rue, on trouvait un assortiment de petits entrepôts, de bâtiments en briques vétustes aménagés en duplex, et le début d'une de ces éternelles enfilades de maisons identiques qui se prolongeaient vers le sud. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi, » dit Anne, attendant que je contredise la première partie de sa déclaration. Je m'exécutais. Au premier étage se trouvait la grande chambre d'Anne et une chambre d'amis plus petite. Son frère avait occupé une troisième chambre attenante à la cuisine qui sentait encore la pharmacie et le cigare. De toute évidence, Anne avait l'intention d'offrir cette chambre à Vincent et de me proposer la chambre d'amis de l'étage. Je l'aidais à nous donner les deux chambres du haut et à se contenter de celle du rez-de-chaussée. Je visitais le reste de la maison pendant qu'elle déménageait ses vêtements et ses objets personnels. Le rez-de-chaussée comprenait une salle à manger, trop guindée pour sa taille, une minuscule salle de séjour encombrée de meubles de gravure, une cuisine, aussi propre et aussi peu engageante qu'Anne elle-même, la chambre du frère, une salle de bain et une petite véranda donnant sur l'arrière-cour, à peine assez large pour qu'on puisse y promener un chien. J'ouvris la porte de derrière pour aérer un peu la maison qui sentait le renfermer. Et un gros chat gris se faufila entre mes jambes. « Oh, c'est Peluche !» dit Anne, qui allait entrer dans la chambre, les bras chargés de vêtements. « C'est mon petit bébé. » Mrs. Pagnelli s'est occupée de lui, mais il savait que sa maman allait bientôt rentrer, je me trompe ? Elle s'adressait au chat. Je souris et reculai d'un pas. Les femmes de mon âge sont censées adorer les chats, en emplir leur domicile à la moindre occasion et bétifier sur ces créatures perfides et arrogantes. Quand j'étais enfant, j'avais à peine 6 ou 7 ans, ma tante amenait son siamois obèse lors de chacune de ses visites estivales. Je redoutais toujours que cette bête vienne se coucher sur mon visage pendant la nuit et me fasse périr étouffée. Je me rappelle avoir fourré ce chat dans un sac de jute par un bel après-midi, alors que les adultes dégustaient une citronnade dans la cour. Je l'ai noyé dans le réservoir, derrière la remise du voisin, et j'ai abandonné son cadavre ruisselant derrière un appentis où une meute de chiens jaunes se rassemblait fréquemment. Une fois que le conditionnement d'Anne serait achevé, je ne serais guère surprise si son « petit bébé » venait à connaître un sort semblable. Quand on dispose du talent, il est relativement facile d'utiliser un sujet. Beaucoup plus difficile de le conditionner avec succès. Lorsque Nina, Willy et moi avons entamé notre jeu à Vienne, il y a presque un demi-siècle de cela, nous nous amusions à utiliser les gens, en général des inconnus, sans tenir compte de la nécessité qu'il y avait d'éliminer par la suite ces instruments humains. Plus tard, lorsque nous avons usé de notre talent avec plus de maturité, chacun de nous a ressenti le besoin d'avoir auprès de lui un compagnon, mi-serviteur, mi-garde du corps, si au fait de nos besoins qu'il ou elle pouvait être utilisé presque sans le moindre effort. Avant de découvrir M. Thorn en Suisse, il y a 25 ans de cela, je voyageais en compagnie de Mme Trémont et, avant elle, d'un jeune homme que, dans un élan de sentimentalisme juvénile, j'avais baptisé Charles, en souvenir de mon défunt soupirant. Nina et Willy avaient leur propre théorie de pion, dont les derniers en date étaient les deux brutes que Willy m'avait présentées quelques jours plus tôt, et la répugnante Miss Barrett Kramer, qui accompagnait Nina. Un tel conditionnement peut prendre un certain temps, mais ce sont les premiers jours qui sont les plus critiques. Il importe de laisser subsister un vague noyau de personnalité sans que celle-ci ait la possibilité d'agir de façon indépendante. Mais si les actions ne doivent jamais être indépendantes, elles doivent cependant rester autonomes, en ce sens que le sujet doit pouvoir accomplir des gestes simples et des actes routiniers, sans avoir besoin pour cela d'être directement utilisé. Si l'on souhaite apparaître en public avec ses assistants conditionnés, il doit subsister en eux au moins un simulacre de leur personnalité d'origine. Les avantages d'un tel conditionnement sont évidents. Alors qu'il est difficile, quasiment impossible, bien que Nina en ait peut-être été capable, d'utiliser deux personnes en même temps, il est relativement facile de diriger les actions de deux pions conditionnés. Willy ne voyageait jamais sans être accompagné d'au moins deux de ses petits amis, et avant de découvrir le féminisme, Nina se déplaçait le plus souvent en compagnie de cinq ou six célibataires au corps superbe. Anne Bishop se révéla facile à conditionner tant elle désirait être soumise. Les trois jours que je passais chez elle me suffirent à la dresser complètement. Avec Vincent, ce fut une toute autre affaire. Bien que ma première leçon ait annihilé toute sa volonté consciente, son subconscient demeurait un grouillement chaotique et presque impossible à maîtriser de haine, de peur, de préjugés, de désirs et de sombres pulsions. Je ne souhaitais pas éradiquer ces sentiments, car c'était des sources d'énergie que je comptais bien exploiter ultérieurement. Durant ces trois longues journées du dernier week-end avant Noël 1980, je demeurais dans la maison d'Anne, où régnait une vague odeur aigre, et explorais la jungle émotionnelle du ténébreux subconscient de Vincent, y traçant des pistes en y laissant des repères en vue d'une future utilisation. Le dimanche 21 décembre, je pris un petit déjeuner tardif préparé par Anne et l'interrogeai sur ses amis, ses revenus et sa vie. Il s'avéra qu'elle n'avait aucun ami et presque aucune vie sociale. Mrs. Pagnelli, une de ses voisines, lui rendait visite de temps en temps et prenait parfois soin de peluches. Lorsque Anne entendit le nom du félin disparu, ses yeux s'emplirent de larmes et je sentis ses pensées glisser comme une automobile sur une plaque de verglas. J'accentuai mon étreinte mentale et l'orientai vers sa toute nouvelle passion, me plaire. Anne avait plus de 73 000 dollars d'économie. Comme nombre de femmes égoïstes, approchant du terme d'une vie sans intérêt, elle avait vécu pendant des dizaines d'années dans un état de quasi-pauvreté tout en accumulant liquidités, actions et obligations. Tel un écureuil maniaque, amassant des noisettes qu'il ne mangerait jamais. Je lui suggérai de convertir ses biens en liquide durant la semaine suivante. Anne trouva cette idée excellente. Nous discutions de ses sources de revenus lorsqu'elle mentionna Grumblethorpe. La société me verse une petite somme pour surveiller cette maison, pour guider les visiteurs et pour l'entretenir quand elle reste fermée durant une longue période, comme c'est le cas en ce moment. Quelle société ? La Société pour la préservation des monuments de Philadelphie. Et quel genre de monument est-ce, Grumblethorpe ? Je serais enchantée de vous le montrer, dit Anne avec enthousiasme. C'est tout près d'ici. Je commençais à m'ennuyer après avoir passé trois jours à me reposer et à conditionner deux personnes dans le cadre étriqué de la maison d'Anne. J'acquiesçais donc. Après le petit déjeuner, si je me sens en forme pour marcher. Il m'est difficile même aujourd'hui de donner une idée du charme et de l'incongruité de Grumblethorpe, situé sur Germantown Avenue, cette artère de briques en voie de détérioration. Les rares beaux immeubles encore existants sont flanqués de bars et de boutiques à 100 sous, de restaurants minables et d'épiceries sordides. Les rues étroites qui partent de cette partie de l'avenue donnent rapidement sur une zone de taudis et de terrains vagues. Mais ici, au 5267 Germantown Avenue, derrière l'enfilade de parcs-maîtres et les deux chaînes noircies par la suie et lacérées de graffitis, à moins de 3 mètres du défilé incessant des tramways et des piétons invariablement noirs, se dresse la perfection des murs de pierre, des volets et des bardeaux de Grumblethorpe. Il y avait deux portes d'entrée. Anne sortit un anneau encombré de clés et nous fit entrer par la porte est. L'intérieur du bâtiment était plongé dans l'ombre, en raison de ses fenêtres occultées par des volets et de lourds rideaux. La maison sentait l'antique, le bois et la cire séculaire. Pour moi, cette odeur était celle d'un foyer. Cette maison a été édifiée en 1744 par John Wister, m'expliqua Anne, dont la voix prit un ton assuré de guide expérimenté. C'était un marchand de Philadelphie qui utilisait cette demeure comme résidence d'été. Plus tard, sa famille a pris l'habitude d'y séjourner toute l'année. Nous quittâmes la minuscule entrée pour pénétrer dans le salon. Le parquet était soigneusement ciré, les moulures du plafond d'une élégante simplicité et la petite cheminée flanquée d'un fauteuil à oreillettes. Une chandelle était posée sur un guéridon d'époque, on ne voyait ni ampoule, ni prise électrique. Le général anglais James Agnew est mort dans cette pièce durant la bataille de Germantown, récita Anne. Les taches de sang sont encore visibles. Elle désigna le sol. Je jetai un coup d'œil au bois légèrement décoloré. Il n'y a aucune pancarte dehors, dis-je. Un panneau était apposé à la fenêtre. La maison était ouverte au public les mardis et jeudis après-midi, de 2h à 5h. La société organisait aussi des visites privées pour les personnes s'intéressant à l'histoire de la région. À présent, la maison est fermée et elle le restera pendant au moins un mois, le temps de rassembler les fonds nécessaires à la poursuite des travaux de restauration entamés dans la cuisine. Qui vit ici à présent ? Anne eut un petit rire, un couinement de souris. Personne ne vit ici. Il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage à part les cheminées et aucune plomberie. Je viens régulièrement faire un tour et Mrs. Waverly, de la société, inspecte les lieux toutes les 6 ou 8 semaines. J'acquiesçai. Il y a une porte galante ici. En effet, dit Anne. Vous connaissez bien les vieilles coutumes. On s'en servait également lors des enterrements. Montrez-moi le reste de la maison, ordonnai-je. La salle à manger contenait une table et des chaises rustiques à la beauté toute simple datant des débuts de l'époque coloniale. Je découvris un incroyable banc sur lequel s'étaient exprimés tous les talents d'un maître ébéniste. Anne attira mon attention sur une chaise conçue par Solomon Fussell, l'auteur des chaises de l'Independence Hall. La cuisine donnait sur l'arrière-cour, et en dépit du sol boueux et moucheté de neige, je discernais les contours du superbe jardin qui devait y fleurir pendant l'été. Le sol de la cuisine était en pierre, et la cheminée si vaste qu'on pouvait y entrer sans courber la tête. Un étrange assortiment d'outils et d'ustensiles antiques était accroché au mur, un sécateur, une immense faux, une houe, un râteau rouillé, des pinces en fer, et j'en passe. Au voisinage d'une meule à pédales. Anne désigna un petit tas de pierre devant le mur et une feuille de plastique noir dissimulant une excavation. Quelques pierres se sont décelées dans ce coin. En novembre, les ouvriers qui travaillaient à la réfection ont découvert une porte en bois pourrie sous le sol et un tunnel partiellement obstrué. Une issue de secours ? Probablement. Les Indiens étaient encore actifs à l'époque où la maison a été bâtie. Où débouche ce tunnel ? On a retrouvé ce qui est sans doute la sortie derrière le garage d'une maison voisine, dit Anne en indiquant vaguement un bâtiment de l'autre côté des vitres givrées. Mais la société n'avait pas assez de fonds pour poursuivre l'excavation, et elle a préféré attendre la bourse de la Commission historique de Philadelphie qui doit lui être versée en février. Vincent aimerait jeter un coup d'œil dans le tunnel. Oh ! Fit Anne. Elle sembla vaciller, se passa une main sur le front. « Je ne pense pas qu'il soit permis de... »« Vincent va jeter un coup d'œil, » insistai-je. « Bien sûr, » acquiesça Anne. Il y avait une bougie dans le salon, mais je dus envoyer le garçon chez Anne pour y chercher des allumettes. Lorsqu'il ôta le rideau de plastique et descendit la petite échelle conduisant au tunnel, je fermai les yeux afin de mieux voir ce qu'il allait découvrir. Terre, roc, odeur d'humidité et de tombe. Le tunnel n'avait été dégagé que sur une longueur de 3 ou 4 mètres sous la cour. Son plafond était soutenu par des poutres toutes neuves. Je fis remonter Vincent et rouvris les yeux. « Aimeriez-vous voir les taches ?» demanda Anne. J'acquiesçai sans parler, ni faire un geste. La nurserie m'adressa ses chuchotis dès que j'y entrais. « Selon la légende, cette pièce est hantée, » dit Anne. « Le chien de Mrs. Waverly refuse d'y pénétrer. » Je supposais tout d'abord qu'Anne entendait également les murmures. Mais lorsque je touchais son esprit, je n'y trouvais aucun signe de leur présence, rien qu'un désir croissant de me plaire. Je m'avançai dans la pièce. Les volets de la fenêtre donnant sur la rue ne laissaient passer presque aucune lumière. Je distinguais au sein de la pénombre un berceau en métal aussi laid qu'anachronique, la cage ternie d'un enfant maléfique. Il y avait aussi 2 petits lits et une chaise d'enfant, mais je n'eus bientôt Dieu que pour les jouets, les poupées et le mannequin grandeur nature. Une immense maison de poupées était posée dans un coin. Elle aussi n'était pas de la bonne époque. Elle devait avoir un siècle de moins que la maison de taille réelle. Mais ce qui frappait chez elle, c'était qu'elle était en partie pourrie et affaissée, comme un authentique foyer abandonné. Je m'attendais à moitié à voir des rats minuscules trottiner dans ses couloirs. Près de la maison miniature, une demi-douzaine de poupées gisaient sur un lit. Une seule semblait assez antique pour dater du XVIIIe siècle. Mais plusieurs paraissaient assez réelles pour être confondues avec de vrais cadavres d'enfants en voie de décomposition. Mais c'était le mannequin qui dominait la pièce. Il avait la taille d'un garçonnet de 7 ou 8 ans. Ses habits reconstituaient la tenue d'un enfant de l'époque de la guerre d'indépendance. Mais leur tissu s'était fané au fil des décennies, leur couture défaite, et une odeur de laine pourrie emplissait la pièce. Ses mains, son cou et son visage étaient écaillés en plusieurs endroits, révélant la porcelaine noire que dissimulait la peinture rose. Il s'était jadis enorgueilli d'une luxuriante perruque d'authentiques cheveux, mais il n'en subsistait que les touffes raides, et son cuir chevelu était tout craquelé. Ses yeux semblaient absolument réels, et je me rendis compte qu'il s'agissait de prothèses. Seuls les yeux de verre avaient conservé leur éclat, et leur lustre cependant que le mannequin se détériorait. Les yeux vifs d'un petit garçon, dans le corps rigide d'un mort. Pour une raison indéterminée, je supposais que les murmures provenaient du mannequin, mais lorsque je m'en approchais, les vagues chuchotis se firent un peu plus lointains. C'étaient les murs qui parlaient. Sous le regard passif d'Anne et de Vincent, je m'appuyai contre les murs de plâtre et tendis l'oreille. Les murmures étaient bien audibles, mais pas tout à fait assez pour que je puisse en distinguer la teneur exacte. On aurait dit qu'il y avait plusieurs voix, mais j'eus l'impression d'entendre des messages qui m'étaient adressés plutôt que celle de surprendre une conversation. « Vous entendez quelque chose ?» demandai-je à Anne. Elle plissa le front, cherchant la réponse qui était la plus susceptible de me plaire. « Seulement la circulation, » dit-elle finalement, « et des enfants qui crient dans la rue. » Je secouai la tête et collai de nouveau mon oreille contre le mur. J'entendis de nouveau les murmures qui n'étaient ni pressants ni menaçants. Je crus discerner les syllabes de mon nom parmi ce doux flot sonore. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas au surnaturel. Mais à mesure que je vieillis, j'en viens à croire que, tout comme les ondes radio continuent à se propager une fois que le transmetteur est éteint, l'émission de la volonté d'un individu continue à être diffusée après sa mort. Nina m'a dit un jour qu'un archéologue avait découvert la voix d'un potier mort depuis des milliers d'années enregistrée dans les sillons de son pot. Le fer contenu dans son argile et les vibrations de ses doigts ayant agi comme un disque et un stylet. Je ne sais pas si cette anecdote était authentique, mais elle exprime le même concept que celui auquel j'ai fini par accorder foi. Peut-être sommes-nous capables, surtout si nous sommes doués du talent, d'imprimer la force de notre volonté sur les objets aussi bien que sur les sujets. Je repensais à Nina et m'écartai vivement du mur. Les murmures cessèrent. « Non, » dis-je à voix haute, « ceci n'a rien à voir avec Nina. Ses voix sont amicales. » Mes deux compagnons me regardèrent, Anne ne sachant pas quoi dire et Vincent incapable de dire quoi que ce soit. Je leur souris et Anne me rendit mon sourire. « Venez, » dis-je, « nous allons déjeuner et ensuite nous reviendrons ici. Je suis très contente de Grumblethorpe, Anne. Vous avez bien fait de m'amener ici. » Le sourire d'Anne Bishop était radieux. Le lundi midi, Anne et Vincent avaient apporté un lit à roulettes et un matelas neuf à Grumblethorpe, acheté d'autres bougies et 3 radiateurs à essence, empli les étagères de la cuisine de boîtes de conserve et de produits non périssables, installé le petit réchaud à butane sur la table de la cuisine et nettoyer à fond toutes les pièces de la maison. Je leur fis installer le lit dans la nurserie. Anna apporta des draps propres, des couvertures et son couvre-lit préféré. Vincent rangea ses pelles et ses seaux tout neufs contre le mur de la cuisine. Je ne pouvais pas remédier pour l'instant à l'absence de plomberie. De plus, j'avais l'intention de passer le plus clair de mon temps chez Anne. Je me contentais d'aménager Grumblethorpe afin d'y trouver le confort lors de mes inévitables visites. Le lundi après-midi, Anne solda son compte en banque et son livret de caisse d'épargne, pour un montant total de presque 42 000 $, et entreprit de convertir ses actions et ses obligations en liquide. Elle fut parfois obligée d'acquitter une pénalité, mais cela nous était égal à toutes les deux. Je rangeais l'argent dans mes bagages. À 4 heures de l'après-midi, la lumière hivernale achevait de mourir au dehors. Des douzaines de chandelles éclairaient brillamment Grumblethorpe, le salon, la cuisine et la nurserie étaient réchauffées par les radiateurs incandescents, et cela faisait 3 heures que Vincent creusait le tunnel et déversait de la terre dans un coin du jardin sous un immense ginkgo. C'était un travail salissant, difficile, et probablement dangereux, mais qui lui faisait du bien. Ce labeur lui permettait de se libérer d'une partie de la rage qu'il réprimait. Je savais déjà que Vincent était très fort, bien plus fort que ne le laissait supposer sa mince carrure et sa posture avachie. Mais je découvrais à présent la véritable étendue de sa robustesse et de son énergie quasi démoniaque. Il doubla presque la longueur du tunnel durant ce premier après-midi de travail. Je ne dormis pas à Grumblethorpe, pas la première nuit. Mais alors que nous éteignions chandelles et radiateurs avant de partir, je me rendis seul dans la nurserie et m'immobilisai au centre de la pièce, tenant une bougie dont la flamme se reflétait dans les yeux de nacre des poupées et dans les yeux de verre du garçonnet. Les murmures étaient plus forts à présent. Je sentis de la gratitude dans leur ton, sinon dans leur teneur. Ils me souhaitaient bonne chance et m'invitaient à revenir. Vincent déplaça une demi-tonne de terre le mardi, la veille de Noël. Après avoir dégagé 4 mètres supplémentaires, nous constatâmes que le reste du tunnel était pratiquement intact, à l'exception de quelques petits effondrements de terre et de cailloux survenus lors des 2 derniers siècles. Le mercredi matin, il dégagea la sortie, qui se trouvait près de l'allée bordant la cour et l'arrière des maisons situées derrière la nôtre. Il dissimula la sortie sous des planches et retourna à Grumblethorpe. Vincent n'était pas beau à voir. Sale, vêtu de vieux habits à présent déchirés et maculés de boue, les cheveux pendant en mèches graisseuses sur son visage strié de terre et ses yeux hagards. Ce jour-là, je n'avais apporté à Grumblethorpe qu'une grande bouteille thermos contenant de l'eau fraîche. J'ordonnai à Vincent de se dévêtir et de s'asseoir près du radiateur de la cuisine pendant que je retournais chez Anne pour y laver ses vêtements et les faire sécher dans son sèche-linge. Anne avait passé tout l'après-midi à préparer le dîner de Noël. Les rues étaient sombres et presque désertes. Un tramway solitaire passa au loin en grondant, émettant une chaude lueur jaune. Il commençait à neiger. C'est ainsi que je me suis retrouvée à marcher dans la rue, seule et sans défense. En temps normal, jamais je n'aurais franchi la longueur d'un pâté de maison sans être suivi d'un compagnon bien conditionné. Mais le travail accompli à Grumblethorpe durant la journée, ainsi que l'étrange avertissement qui semblait sourdre des murs de la nurserie, m'avaient inquiété au point de me faire négliger mes précautions habituelles. En outre, je pensais à Noël. Noël avait toujours été une fête importante à mes yeux. Je me souviens encore des immenses sapins et des copieux réveillons de mon enfance. Mon père découpait toujours la dinde lui-même. Ma tâche consistait à offrir de modestes présents aux domestiques. Je me souviens d'avoir composé plusieurs semaines à l'avance les brefs compliments que j'adressais à nos gens, des hommes et des femmes de couleur beaucoup plus vieux que moi. Je louais la plupart d'entre eux, réprimandais gentiment ceux qui avaient commis quelques négligences en omettant soigneusement certaines phrases clés. Je réservais invariablement mes plus beaux présents et mes paroles les plus affectueuses à tante Harriet, la vieille femme plantureuse qui m'avait nourrie au sein et élevée. Harriet était née esclave. Bien des années plus tard, à Vienne, Nina, Willy et moi avons constaté avec intérêt que les domestiques nous avaient inspiré la même tendresse durant notre enfance. Même à Vienne, Noël était un moment important pour nous. Je me souviens encore de l'hiver 1928, des promenades en traîneau le long du Danube et du banquet organisé par Willy dans la villa qu'il avait louée au sud de la ville. C'était seulement ces dernières années que je n'avais pas célébré Noël de façon aussi complète que je l'aurais souhaité. À peine 15 jours plus tôt, lors de notre dernière réunion, Nina et moi avions discuté de la triste sécularisation de l'esprit de Noël. Aujourd'hui, les gens ne savent plus ce qu'être chrétien veut dire. Ils étaient 8. 8 garçons de couleur. Je ne sais pas quel était leur âge. Ils étaient tous plus grands que moi. 3 ou 4 d'entre eux avaient une ligne de duvet noire au-dessus des lèvres. J'eus l'impression qu'un tourbillon de bruit de coudes, de genoux et d'obscénité déferlait sur moi au coin de Bringer Street et de Germantown Avenue. L'un d'eux portait une énorme radio qui émettait un vacarme monocorde. Je levai les yeux, surprise, encore distraite par le souvenir des Noëls anciens et des amis disparus. Toujours sans réfléchir, je fis halte, attendant qu'il descende du trottoir, qu'il s'écarte de mon chemin. Peut-être fût-ce à cause de mon visage, de ma posture fière, si différente de l'humilité affichée par les Blancs égarés dans les quartiers nègres des villes du Nord, que l'un d'entre eux me remarqua. « Est-ce que tu regardes comme ça, madame ?» demanda un garçon de haute taille, coiffé d'une casquette rouge. Son visage exprimait toute la stupidité et tout le mépris que des siècles d'ignorance tribale ont insufflé à sa race. « J'attends que vous vous écartiez pour laisser passer une dame, ainsi que le font les enfants bien élevés, » dis-je. J'avais parlé doucement, poliment. En temps normal, je n'aurais rien dit, mais je pensais à autre chose. « Des enfants ?» dit le nègre à la casquette rouge. « Qui c'est que tu traites d'enfants, bordel ?» Toute la bande se rassembla en demi-cercle autour de moi. Je fixai un point situé au-dessus de leur tête. « Hé, pour qui tu te prends, la vieille ?» demanda un nègre obèse vêtu d'une parka grise sale. Je restai muette. « Allez !» dit un garçon plus petit, mais d'aspect moins fruste. Il avait les yeux bleus. « On se tire, les mecs !» Ils commencèrent à s'écarter, mais le nègre à la casquette rouge avait encore son mot à dire. « Fais gaffe à qui tu dis de te laisser passer, vieux débris » cracha-t-il, et il fit mine de me planter un doigt sur l'épaule ou la poitrine. Je reculai vivement pour éviter d'être touché. Mon talon se coinça dans une lézarde du trottoir, je perdis l'équilibre, battis les bras et tombai assise dans le caniveau, au milieu d'un magma de neige et d'excréments de chiens. La plupart des nègres éclatèrent de rire. Le garçon aux yeux bleus les fit taire d'un geste et s'avança vers moi. « Ça va, madame ?» Il tendit une main comme pour m'aider à me relever. Je regardai fixement devant moi, ignorant sa main. Au bout d'une seconde, il haussa les épaules et rejoignit sa bande. Les échos de leur horrible musique résonnaient sur les murs nus et les vitrines silencieuses. Je restai assise jusqu'à ce que les 8 voyous aient disparu au coin de la rue. Puis j'essayai de me lever, y renonçai et rampai sur les mains et les genoux jusqu'à un parcmètre le long duquel je me hissais. Je restai là quelque temps, accrochée au parcmètre, tremblante. Les rares voitures qui passaient, leurs conducteurs pressés de rentrer chez eux pour réveillonner, projetaient sur moi des paquets de boue et de neige mêlés. Deux grosses négresses encore jeunes me frôlèrent, jacassant de leur voix d'ouvrière agricole. Personne ne daigna m'aider. Je tremblais encore lorsque j'arrivais enfin chez Anne. Plus tard, je me rendis compte que je n'aurais eu aucune peine à la faire venir pour me secourir, mais je n'étais pas en état de penser clairement sur le moment. Le vent glacé m'avait arraché des larmes qui avaient gelé sur mes joues. Anne me fit aussitôt couler un bain chaud, m'aida à ôter ma robe trempée et me prépara des vêtements propres pendant que je me baignais. Il était 9 heures du soir lorsque je dînais, seule, Anne restant assise dans la pièce voisine, et quand j'eus fini mon dessert, une tarte aux cerises, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Je pris ma chemise de nuit et quelques objets de première nécessité. J'ordonnai à Anne de prendre un matelas pour elle, des vêtements propres pour Vincent, un peu de nourriture et de boisson, et le revolver que j'avais emprunté au chauffeur de taxi d'Atlanta. Le trajet de retour fut bref et se déroula sans incident. Il neigeait très fort à présent. Je détournais les yeux en passant près de l'endroit où j'étais tombé. Vincent était assis là où je l'avais laissé. Il s'habilla et mangea de bon appétit. Il m'indifférait que Vincent saute quelques repas, mais il avait dépensé des milliers de calories lors des 2 derniers jours, et je voulais qu'il retrouve toute son énergie. Il mangeait comme un animal, ses mains, ses bras, son visage, et ses cheveux étaient encore sales, maculés de boue rouge. Et le spectacle qu'il offrait en dévorant son repas était authentiquement bestial. Après avoir mangé, Vincent se mit au travail sur la meule, aiguisant la faux et une des pelles qu'Anne avait achetées 2 jours plus tôt dans une quincaillerie de Chelton Avenue. Il était presque minuit lorsque je montais me coucher dans la nurserie. Je fermais la porte et me déshabillais pour enfiler ma chemise de nuit. Les yeux de verre de l'enfant mannequin éclatant et poussiéreux me contemplaient à la lumière vacillante de la chandelle. Anne s'assit en bas dans le salon, surveillant la porte d'entrée, comblée. Un léger sourire aux lèvres, le calibre 38 chargé, reposant confortablement sur son giron. Vincent sortit par le tunnel. La boue humide macula un peu plus son visage et ses cheveux, tandis qu'il traînait la faux et la pelle le long du passage obscur. Je fermai les yeux et vis la neige tomber à la faible lueur d'un réverbère lorsqu'il émergea près du garage, tira les outils hors du trou et détala dans la ruelle. L'air avait un parfum propre et froid. Je sentais le cœur de Vincent battre sur un rythme robuste et assuré. Je sentais la jungle qu'était son esprit ondoyé comme sous l'effet d'une tempête, tandis que l'adrénaline coulait à flot dans son organisme. Les muscles de mes joues se tordirent lorsque je me rendis compte que Vincent avait aux lèvres un large sourire, un rictus de prédateur. Nous avançâmes vivement le long de la ruelle. Nous arrêtâmes à l'entrée d'une rue sombre peuplée de taudis et courûmes le long des maisons du côté sud, là où les ombres étaient les plus profondes. Nous observâmes une pause et j'ordonnai à Vincent de regarder dans la direction où les 8 voyous avaient disparu. Je sentais les narines de Vincent palpiter, tandis qu'il reniflait l'air nocturne en quête d'une odeur de nègre. Il neigeait de plus en plus fort. Le silence de la nuit n'était rompu que par le lointain carillonnement des cloches, annonçant la naissance de notre sauveur. Vincent leva la tête, posa pelle et faux sur son épaule, et s'engouffra dans les ténèbres d'une ruelle. Au premier étage, à l'intérieur de Grumblethorpe, je souris, me tournai vers le mur de la nurserie et pris vaguement conscience du flot de murmures sifflants qui montaient autour de moi, tel le bruit de la marée.